Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, situation catastrophique à Aden, au Yémen, où s'affrontent les factions rivales au sein des forces gouvernementales. Témoignage dans cette édition de l'une des représentantes de Médecins Sans Frontières. Nous rendrons également à Moscou, une manifestation a rassemblé des dizaines de milliers d'opposants à Vladimir Poutine. À Hong Kong, où les détracteurs du pouvoir central chinois ne désarment pas. Et puis le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, miroir de la géopolitique du monde arabo-musulman. Invité de ce journal, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Depuis mercredi dernier, la ville d'Aden renoue avec des heures encore plus sombres que celles qu'elle endure depuis 5 ans et le début de la guerre entre les Houthis et les forces gouvernementales. Ces dernières divisées s'affrontent de nouveau, 3 casernes attaquées et conquises et le palais présidentiel est encerclé. Les humanitaires à pied d'œuvre craignent le pire. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
Sarah, vous avez pu joindre l'une des représentantes de Médecins Sans Frontières.
Oui, de violents combats sont toujours en cours. La ville est totalement paralysée. Aden est en état de guerre, une guerre civile dans la guerre civile, nous explique Caroline Seguin de Médecins Sans Frontières.
Donc depuis 3 jours, il y a des combats intenses dans toute la ville, particulièrement dans certains quartiers, notamment à Krater et autour du palais présidentiel. Mais tous les quartiers sont atteints, il y a des tanks dans les rues, il y a des bombardements, on va dire sans cesse, et les gens sont terrés chez eux en fait. Hein. La ville est complètement assiégée en ce moment.
Dans cette ville assiégée, les civils sont pris au piège. Tous les hôpitaux sont débordés par l'afflux de blessés, dont l'hôpital MSF.
Notre hôpital a reçu 120 blessés dans les dernières 24 heures. La majorité de nos patients sont des civils. On a eu, par exemple, une femme enceinte de 8 mois qui a été blessée chez elle. On a eu un enfant qui est mort, qui est arrivé mort à la salle d'urgence. Donc là, les civils restent terrés chez eux, mais malgré ça, ils reçoivent des balles perdues ou des tirs de mortier. Beaucoup de tirs de mortier, en fait, qui viennent des tanks.
Les voies d'accès à la ville sont pour l'instant coupées. Dans ce contexte, les équipes de MSF sur place travaillent jour et nuit sans pouvoir être relayées. Et si la situation se dégrade, elles craignent des ruptures d'approvisionnement.
C'est très très inquiétant. Là, pour l'instant, nos équipes hibernent à l'hôpital. On a des stocks d'urgence. Le problème principal auquel on a dû faire face, c'est que notre personnel yéménite ne pouvait pas atteindre l'hôpital. Donc on a une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 3 jours sans s'arrêter. Ils ont dormi à l'hôpital et ce matin, on a une petite fenêtre. Donc certains ont pu venir relayer les équipes qui travaillaient sur place. Ensuite, ce qui est inquiétant, c'est que l'aéroport est fermé, évidemment. Donc nous, notre voie d'accès à Aden, c'était l'aéroport. Donc là, on est en train de voir une possibilité d'accès par la mer pour relayer nos équipes expatriées, les renforcer et amener des médicaments.
Ils attendent des pourparlers, sans quoi le sud du pays pourrait s'embraser. La situation ne s'est pas améliorée depuis 2015. Aden a fait face à de nombreux affrontements, comme ceux de janvier 2018, très violents. On rappelle une triste réalité, le conflit au Yémen a tué, selon l'ONU, des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de civils. Plus de 24 millions de personnes ont toujours besoin d'assistance.
Merci à vous, Sarah Ders. Ce samedi fera date en Russie, eu égard au bras de fer en cours entre le Kremlin et ses opposants. Selon l'ONG Compteur Blanc, des dizaines de milliers de personnes ont participé à une manifestation à Moscou, la plus importante dans la capitale russe depuis des années, pour demander des élections libres au Parlement municipal après l'invalidation de nombreuses candidatures par la commission électorale. L'opposition, privée de ses principaux leaders emprisonnés, semble étoffer ses rangs. C'est une correspondance de Jean-Didier Revoin.
Au vu de la météo et de la pluie battante qui s'est abattue durant la plus grande partie du rassemblement, l'opposition peut se targuer d'avoir réussi son opération mobilisation. Avec plus de 40 000 participants, les moscovites ont répondu présents et signifié au pouvoir qu'ils n'appréciaient pas vraiment l'exclusion des candidats de l'opposition des élections locales du 8 septembre, comme l'explique Anna, 32 ans.
Nous espérons que nous serons autorisés à choisir les candidats que nous voulons, dans lesquels nous croyons, et non pas ceux qui nous seront imposés d'en haut.
Il s'agit aussi pour la majorité d'entre eux de soutenir les candidats de l'opposition l'opposition qui ont été arrêtés ces dernières semaines et qui purgent actuellement de courtes peines de prison. Il déplore un processus électoral dévoyé, mais Vladimir, 33 ans, ne désespère pas de voir les choses changer, même s'il sait que ce ne sera pas tout de suite.
Le pouvoir ne réagit pas rapidement à de tels rassemblements. Il n'aime pas montrer ses faiblesses. Je pense donc que les élections auront lieu sans la participation des candidats indépendants. Mais c'est important pour l'avenir. Dans quelques années, dans la même situation, le pouvoir les laissera peut-être se présenter. Il se souviendra des manifestations. Tout le monde doit pouvoir participer aux élections.
Une arrestation est toutefois à déplorer, celle d'un opposant qui a voulu inviter les manifestants à aller se promener à proximité de l'administration présidentielle après la fin du rassemblement.
Jean-Didier Revoin à Moscou. Après deux jours de silence, les autorités russes ont reconnu que l'explosion survenue jeudi sur une base de lancement de missiles dans le Grand Nord avait un caractère nucléaire et ont revu à la hausse le bilan, désormais d'au moins 5 morts. D'un abécédaire de la contestation destiné aux enfants, au rassemblement Cheveux d'argent, détermination intacte toute génération confondue à Hong Kong, lors de nouvelles manifestations interdites par les autorités, des autorités promptes à répéter à l'envi que ces protestations dégradent, abîment l'économie de cette région administrative spéciale, selon la terminologie de Pékin. Détermination intacte, comme l'a constaté notre correspondante Angélique Forget.
Deux mois après le début de la contestation, rien n'a vraiment changé à Hong Kong. La police a une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et les manifestants se sont encore rassemblés par milliers dans différents quartiers de la ville pour exprimer leur opposition au gouvernement pro-Pékin. Dans les cortèges, surtout des jeunes, mais on croise aussi des familles et des personnes âgées, le groupe des cheveux gris, comme ils se sont surnommés. En parallèle de ces rassemblements, d'autres manifestants occupent l'aéroport international de Hong Kong pour sensibiliser, disent-ils, les voyageurs à leur mobilisation. Alors que le gouvernement hongkongais a exclu une nouvelle fois vendredi toute concession aux manifestants pro-démocratie, les contestataires non plus ne semblent pas vouloir reculer. Pour sortir de cette impasse, l'exécutif hongkongais a rappelé le chef de la police, aujourd'hui à la retraite, et qui avait géré la révolte des parapluies en 2014. Le mouvement avait fini par s'essouffler après 79 jours de contestation et sans que les revendications des manifestants n'aient été satisfaites.
La Chine, premier marché automobile mondial, terre de déboire pour PSA, Peugeot, Citroën. PSA et son partenaire chinois Dongfeng ont décidé de supprimer plusieurs milliers de postes, de se défaire de deux des quatre sites d'assemblage qu'ils détiennent en commun dans le pays. Information que l'on doit à l'agence Reuters. Le groupe français rencontre depuis bien longtemps de très grandes difficultés et accumule les pertes financières. Pourquoi PSA collectionne-t-il les échecs en Chine? Bernard Julien est maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile. Il répond à Sophie Delpont.
Ça signifie que, un, le marché automobile chinois ne se porte plus aussi bien que par le passé, et ça signifie surtout que PSA en Chine souffre terriblement. Ils ont vu leur vente divisée par 3 en quelques années, et par conséquent, il n'est pas très surprenant qu'il leur faille ajuster leur appareil de production à ces débouchés notoirement réduits. Ils ont effectivement 4 usines aujourd'hui, ils envisagent d'en avoir plus que 2 bientôt, et évidemment, les effectifs sont réduits en conséquence. Ça veut dire aussi que PSA, d'une certaine manière, ne se raconte plus d'histoire et ne pense plus pouvoir revenir demain au volume qui était les siens il y a 3 ou 4 ans.
Est-il envisageable même un retrait total de l'industrie de PSA en Chine?
Oui, alors ça s'est déjà vu, face aux obligations qui pèsent sur les constructeurs et en particulier l'obligation d'électrifier les véhicules qui peuvent coûter très cher. On a des constructeurs qui ont déjà quitté la Chine, c'est le cas de Suzuki par exemple. Par conséquent, il est envisageable qu'un certain nombre de constructeurs qui souffriront très, très fortement en Chine, comme c'est le cas de PSA, finissent par jeter l'éponge et considérer qu'il y a mieux à faire de son cash que d'aller le perdre sur un marché qui n'est plus porteur.
Le financier américain Jeffrey Epstein, réputé proche des puissances, s'est suicidé dans sa cellule à New York où il attendait son procès, inculpé notamment d'exploitation sexuelle de mineurs. L'homme d'affaires de 66 ans, déjà condamné, risquait jusqu'à 45 ans de prison. Il est 18h10, vous écoutez le journal de France Culture. Rituel essentiel, le voyage d'une vie pour un croyant, l'un des cinq piliers de l'islam, le Hajj. Le pèlerinage à la Mecque a conduit aujourd'hui 2,5 millions de fidèles sur le mont Arafat, le mont de la miséricorde. Le Hajj, défi logistique et sécuritaire pour le royaume saoudien, n'en reste pas moins une rente vertigineuse que le prince héritier saoudien compte bien accroître autant que faire se peut. Une rente, mais aussi, il donne un état des lieux géopolitique. Bonsoir David Rigoulet-Rose.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. David Rigoulet-Rose, le Hajj fait aussi taire les armes. Il arrive que ça fonctionne. Le maréchal Haftar, dont les forces affrontent les troupes du gouvernement d'union nationale libyen à Tripoli, vient d'annoncer qu'il était prêt à une trêve humanitaire pendant l'Aïd al-Adha qui sera célébrée demain. C'est une constante, c'est une récurrence. Il arrive que le Hajj puisse faire taire les armes.
Oui, il arrive que effectivement, ça soit un moment propice pour faire taire les armes. Pas partout, puisque notamment en Afghanistan, les talibans ont refusé justement une trêve, comme ça avait pu être le cas précédemment.
Et pas au Yémen, on l'a entendu. Eh oui.
Absolument. Donc c'est pas forcément la norme, mais en tout cas, normalement, c'est un moment propice effectivement à un moment
d'accalmie, en tout cas. De réconciliation, peut-être, temporaire. Oui.
Voilà, de réconciliation temporaire, effectivement, même si les enjeux géopolitiques et les tensions qui peuvent préexister restent pas pour autant.
Alors justement, parlons justement de ces tensions qui persistent. Le Hajj, c'est aussi un instantané, une cartographie des conflits et des ruptures au sein du monde arabo-musulman. Peut-être la première d'entre elles, je parle de rupture, serait celle entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Il y a peu de pèlerins qataris, a-t-on pu faire remarquer.
Oui, absolument. C'est depuis la crise qui oppose l'Arabie saoudite au Qatar depuis 2017. Il y a effectivement une obstruction quasi systématique en termes pratiques qui est faite pour la venue des pèlerins qataris. On peut noter d'ailleurs que c'est pas paradoxalement le cas des pèlerins iraniens, puisque cette année il est prévu la venue de 88 500 pèlerins iraniens, malgré les tensions qui sont patentes dans le Golfe. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément le même traitement en fonction des pays, nonobstant les tensions qui sont évidemment très fortes avec l'Iran.
Alors quel usage en fait le royaume saoudien, celui-là même du prince héritier nouvellement en place, hein, Mohamed Ben Salman? Est-ce qu'il y a une inflexion par rapport à la génération d'avant et la sienne?
Il y a une inflexion essentiellement économique, parce que jusqu'à présent, la question du Hajj, évidemment, est un sujet très sensible. Le souverain saoudien, d'ailleurs, a repris le titre de Khalil al-Haramain, c'était en 1986, c'est-à-dire de serviteur de Dieu saint, parce que c'est un moyen de s'assurer de légitimité par rapport à l'ensemble de la Oumma, de la communauté musulmane. Mais le prince héritier Mohamed bin Salman voit également une opportunité en termes économiques dans le développement du tourisme religieux, et donc effectivement ça permet dans la perspective du développement économique du royaume, dans la transition post-pétrolière, de développer un tourisme dont la manne est très importante, puisque on parle d'une douzaine de milliards pour les deux pèlerinages, le Hajj, le grand pèlerinage, mais également le petit, le Omra.
Le Omra, qui est l'appel de la pluie, si je ne fais pas d'erreur. Mais alors, David Rigoulet-Rose, il est à cet égard, justement, le prince héritier contesté, parce qu'il va trop vite, peut-être trop loin.
Oui, alors c'est le problème effectivement de la vision 2030, c'est-à-dire que le prince héritier a l'ambition d'aller très vite parce que il perçoit un sentiment d'urgence, et ce sentiment d'urgence de transition économique que se télescope parfois avec des contradictions géopolitiques, et on le voit bien avec la crise dans le Golfe en ce moment.
Ah, vous voulez dire que là il est vraiment confronté à une accumulation, une addition de crises, et peut-être est-ce de nature à ralentir le rythme qui s'était fixé?
Il ne souhaite pas ralentir ce rythme. Manifestement, il a décidé d'accélérer. D'ailleurs, on vient de le voir récemment, puisqu'il a accordé aux femmes non seulement la liberté de conduire, mais également de ne plus forcément avoir en référé au maharam, c'est-à-dire au tuteur masculin. Donc c'est il y a la poursuite effectivement de modifications sociétales, mais en même temps il veut être le maître de l'horloge, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas forcément qu'il y ait des contestations en interne, et ça suppose évidemment la surveillance plus importante de la population et parfois la répression comme il y a eu peu auparavant.
Très bien, merci infiniment. Merci de vos précisions et de vos explications. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Les équipes de l'Ocean Viking, le navire affrété par Médecins sans frontières et SOS Méditerranée pour prendre le relais de l'Aquarius, ont porté secours à plus de 80 personnes au large des côtes libyennes. Deuxième sauvetage en 24 heures. 165 naufragés sont actuellement pris en charge. Le temps de demain dimanche, pluvieux sur le sud-ouest puis sur le centre-est. Température souvent en baisse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau et la technique Pierrick Monsigny.